Bonsoir, Paul. J'aime bien voir ta vraie tête au lieu de ton dessin animé.
J'aime bien, elle le met au bout d'un moment. Ordinaire.
Ah,
Salut.
salut. Pour l'instant, je suis la seule en présentiel ce soir. Claude a écrit qu'elle a un problème de métro, qu'elle rentre chez elle et qu'elle se met en Zoom. Et Annie m'a déjà écrit dans l'après-midi qu'elle ne peut pas être là ce soir.
Alors, il n'y a pas Sio.
Si, si, bien sûr, bien sûr.
Ah. Moi, j'y attends la paracha la semaine parce que demain, je dois faire à mes talmidotes du Parche Funderwoch et j'attends le shiur.
Ah, d'accord. S'il ne pas tâcher après le choix, Claire va prier, voulait nous inviter à aller chez la parole de sa fille ce soir. Elle voulait savoir si par hasard il n'y avait peut-être pas cours, qu'on serait peut-être disponible.
Merci.
Ah, ça sonne. Mais tu vois, je l'entends, je ne le vois pas sur mon téléphone. J'entends que ça sonne.
Le
Et
problème, chez
je n'ai
moi, il ne
pas
sonne
entendu sur
pas.
mon téléphone.
Chez moi, il ne sonne pas.
Oui, mais chez moi non plus, ça n'a pas sonné. J'ai entendu par l'oreille. Tu vois, et Rava aussi, elle m'a dit plusieurs fois ça sonne. Elle entend pas sonner, des fois. Voilà, les gens ont sonné puisque j'ai entendu.
Donc, tu l'auras ouvert?
Non, je ne peux pas la rouvrir parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive
Mais
même
alors,
pas à
c'est pour aller
l'étoile.
là-bas, alors, si.
Je vais y aller. Ah ben non, tout à coup, ça s'est mis en connexion, tout à coup. Il y a aussi blessé les deux sœurs.
Comprends pas pourquoi ça, tu n'arrives pas à ouvrir si c'est.
Mais ça, je te dis, maintenant, je suis arrivée. Mais à vous, vous n'avez pas, ça ne marchait pas. Et Rava, elle me dit, c'est souvent ça, même si les...
Machel, les gens sont devant la porte.
En plus, avec ses patients et tout ça. Mais j'ai ouvert maintenant.
Ah, t'as ouvert?
Au début, ça marchait,
Mais
ça.
celle-là.
Oui, je vais l'écouter. Je vais faire un ami.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, Avronstein.
Rachel.
Vous avez laissé un problème? Oui, c'est des escaliers. Oui. À vers 9 h, je sors. Bonsoir.
Bon, ben voilà, tout le monde est là. Bon. Bon, quand ça va, alors, hein? Bon, évidemment, c'est une paracha très riche, mais on va commencer par le milieu, disons, presque vers la fin. Parce que sinon, on n'y arrive jamais. Alors, d'abord, prenez s'il vous plaît au chapitre 10, au verset 29. Alors, on parle de la situation suivante. Yitro a rejoint Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël. Yitro, c'est donc le beau-père de Moshe. Et là, Moshe lui parle. Vayomer Moshe, le Chovav ben Ruel, Amidiani, Choten Moshe. C'est Yitro, il a plusieurs noms. Et il lui dit, Nosim anachnu el amakom asher amar Hashem, Oto eten lachem. Il lui dit, nous sommes en train d'aller vers l'endroit qu'Hachem nous donne. Donc, on est en chemin pour aller en Eretz Israël. Lecha itanu. Viens avec nous. Ve'etav nulach. Et nous te ferons du bien. Et Hachem dibertov à l'Israël. Tu vas bénéficier du bien qu'Hachem a promis de donner au Bnei Israël. Et donc, comme vous savez probablement, à ce moment-là, Yitro lui a dit non, je retourne El Arti ve El Molati. Et d'ailleurs, c'est là que je vais. Et alors, Moshe a insisté, ne nous abandonne pas. En fait, Aïtala nous les Naïm, en fait, tu nous as guidés, tu nous as ouvert des horizons. Et donc, d'une certaine manière, viens avec nous et on te fera du bien. Et donc, bon, ça n'a pas marché. Yitro est reparti chez lui. Et les Bnei Israël, Vaïssou Me'ar Hashem, Derech Shloshet Yamim. Donc, les Bnei Israël ont quitté la montagne d'Hashem, c'est-à-dire le Sinaï. Derech Shloshet Yamim, un chemin de 3 jours, Ve Aaron Brit Hashem, et le Aaron qui contenait les tables, qui est la boîte, le Aaron dans lequel, enfin, qui représente l'alliance d'Hashem avec les Bnei Israël, Nosea Lifnehem, Derech Shloshet Yamim, il marche devant eux 3 jours. Pour les amener à la Menoucha. En fait, on va leur trouver un endroit où ils vont pouvoir trouver se reposer en fait. Ve'anan Hashem aleihem yomam, et il y a cette nuée d'Hashem qui est au-dessus d'eux de jour quand ils se déplacent. Quand ils changent de camp, donc quelque part, ils se déplacent, mais parce que la nuée se déplace. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ah, il y a Magali. Voilà. Non. Voilà. Donc, je vous ai ramené ceci parce que donc Moshe Rabbeinu nous parle à Yitro, il parle cette histoire de 3 jours. Alors Rashi dit sur ce sujet, sur oui. Rashi dit, il commente Chovav, le mot Chovav qui est le nom de un des noms de Yitro ou Yitro. Donc il dit voilà, c'est jusqu'à présent on le connaissait plutôt sous le nom de Yitro. Il s'appelle aussi Chovav. Shenemar bibne Chovav choten Moshe, comme on le voit dans un pasouk des Shoftim, donc des juges, où on le cite et on redit là-bas qu'il était le beau-père de Moshe. Matalmud lomar, batavona el ruel aviem. Mais alors, comment est-ce qu'il faut entendre le verset qui dit que les filles de Yitro, après avoir rencontré Moshe au puits, elles sont retournées chez leur père, qui là-bas s'appelle Reuel, c'est encore un troisième nom. Mais la mère, chez Atinukot Corinne, la Avia Viem, Abba. Parce qu'en fait, ici c'était leur grand-père en réalité, et ils l'appellent leur père. Bon, ça c'est pas fondamental pour ce qu'on veut dire maintenant. Alors pourquoi il s'appelle Yitro? Dans Yitro, il y a la racine Yeter, qui veut dire plus, en plus, supplément. Parce que chez Yeter Barsha Achad Batora, parce que il a eu le mérite, Yitro, qu'on ajoute une paracha sur son nom dans la Torah. Alors, la paracha, c'est pas tellement la paracha qui s'appelle Yitro. Une paracha dans Rashi, ça veut pas dire ce que nous on appelle une paracha. Ça veut dire un morceau du texte. Il s'agit du texte dans lequel la Torah rapporte les conseils que Yitro a donnés pour l'organisation du système judiciaire de Bnei Israël. C'est ça la paracha dont il a. Pardon?
Paracha Tfarim.
Deux?
C'est dans la paracha Tfarim.
Dans la paracha deux?
Tfarim.
Oui, non, c'est. Non, ce qui est important, c'est qu'on appelle paracha, non pas ce que nous on appelle paracha au sens de, c'est la péricope de la semaine, comme on dit en français. Mais ici, il s'agit simplement d'un morceau, comme on dit que les Bnot Slofrad, elles ont été zochées, elles ont mérité d'avoir aussi une paracha. C'est la paracha dans laquelle, Hachem a répondu à leur demande d'avoir le droit, d'hériter de leur père quand il n'y a pas de garçon qui hérite de leur père, alors ce sont les filles qui héritent. Et c'est une paracha que Moshe n'avait pas enseignée, mais qu'elles ont suscité en quelque sorte, et donc on leur dit, elles ont eu un mérite qu'on écrive une paracha à leur initiative. C'est ça. Et une paracha veut simplement dire un paragraphe ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui intéresse ici, il lui dit, Nosim anachnu elamakom. C'est au présent. Nous sommes en train de voyager vers le lieu. Miyad. C'est-à-dire, on y arrive tout de suite. Ad shlosha yamim anu nechnesim laaretz. Il lui dit, voilà, on est vraiment aux portes d'Eretz Israël. Dans 3 jours, on est en Eretz Israël. Chez Bemassa Zé, Arishon, Nassou Almenat, Likanes, l'Eretz Israël. Parce qu'ici, ce premier voyage à partir du Sinaï, c'est un voyage qui est fait pour aller entrer en Eretz Israël. Et là, Chechatou, Bemitonunim, mais il y a une faute, qui est la faute qu'on appelle Mitonunim, et donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Les réclamations des Bnei Israël. On va voir. Mipnema, pourquoi est-ce que Shataf Moshe Tefatzmo Imahem? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu dit Anachnu et il s'inclut avec les Bnei Israël? Alors pourquoi? Parce que chez Adaïn l'on Xera Alav, Xera Alav, le Kassavour, chez Sham. Parce que Moshe Rabbeinu pensait qu'il allait entrer en Eretz Israël. Alors, Rashi dit que la Xéra n'a pas encore été dite à son sujet. Alors, c'est toujours un problème parce qu'il y a à plusieurs endroits dans le texte, dans les Chazal, on voit que Hachem lui a dit, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Il lui a déjà dit, il n'entrerait pas en Eretz Israël au tout début de la mission de Moshe Rabbeinu. Mais Rashi fait référence au fait qu'il n'y a pas eu le problème de Meh Meriva, histoire des eaux, où Moshe Rabbeinu a frappé le rocher, où à ce moment-là, Hachem lui a dit explicitement, tu n'entreras pas. Et Moshe Rabbeinu a toujours pensé que, comme Hachem a toujours, il a toujours pardonné au Bnei Israël, Moshe Rabbeinu a pensé que Hachem lui pardonnerait à lui aussi, et qu'il pourrait quand même entrer. Jusqu'à la dernière minute, il pensait que Hachem allait lui permettre quand même d'entrer. Bon, il y a des explications pour lesquelles. Pourquoi est-ce qu'Hachem ne lui a pas pardonné? Il a pardonné des choses bien plus graves au clan d'Israël. Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas mérité qu'on lui pardonne? Donc, il y avait le Chazal explique que certaines explications disent que il faut que Moshe Rabbeinu soit en dehors d'Eretz Israël pour qu'à la fin des temps, il revienne avec tous les exilés. On a besoin d'un chef pour revenir en Eretz Israël, pour venir en Eretz Israël au moment de ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, au moment du rassemblement de tous les exilés dans le clan d'Israël. Donc, il fallait que lui soit à l'extérieur pour rentrer avec eux. S'il était entré, Israël n'aurait pas eu de chef pour les faire entrer en Eretz Israël au moment de fin des temps. Donc là, ils étaient vraiment à 3 jours. Moshe a bien insisté, et bon, ça n'a pas marché. Il n'a pas voulu, il n'a pas cédé. Alors, comme Rashi nous a déjà dit que, voilà, c'est intéressant. Ils ont quitté le Sinaï dans l'intention d'être dans 3 jours en Eretz Israël. Et il va se passer quelque chose dont le récit est fait dans le chapitre qui vient, le chapitre Yud Aleph, chapitre 11, au tout début de ce chapitre. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce qu'il y a dans ce chapitre. Non, ce que je cherchais. Non, mais c'est pas nécessaire. Je peux me débrouiller sans ça. Non, mais je vois qu'il n'est pas là. Ça sert à rien, non? Non, c'est pas nécessaire. Ça va, je me débrouille à ça. Surtout qu'il est là. Alors, on va voir ensemble ce début du chapitre Yud Aleph. Vayhi, c'est toujours un mauvais commencement, n'est-ce pas? Vayhi, ça se lit Vei, malheur, oui. Vayhi, Aham, que mitonenim, ra, be'ozne Hashem. Alors, ils ont traduit, disons, dans le Stone, ils ont traduit, le peuple chercha des sujets de récrimination, et c'était mal aux oreilles d'Hachem. Voilà. C'est intéressant comme définition. C'est pas qu'il leur manquait quelque chose. Ils ont cherché, est-ce qu'on peut dire vont pouvoir se plaindre, ils ont envie de se plaindre. Chez certaines personnes, c'est naturel, les plaintes. En yiddish, il y a un dicton où les gens disent « on voudrait bien se plaindre, mais on ne peut pas ». On ne peut pas toujours, on réussit pas toujours à se plaindre. En tout cas, comme le texte le dit très bien ici, ils ont cherché à se plaindre. Ils ne savaient pas comment faire. Alors, quand des gens cherchent à se plaindre, et puis cette plainte-là, elle est considérée comme ra. Vous voyez, le mot ra, c'est un mot fort. C'est le mot qui veut dire le mal. Le mal, ici, ce sont des paroles. Des paroles de récrimination qui sont cherchées comme telles. On cherche comment trouver les moyens de se plaindre. Rashi dit, regardez Rashi, si vous avez Rashi. En ha'am ela reshaim. Voilà, ici, Rashi dit clairement, le peuple ici sont des reshaim. Ils sont mauvais. Renou Omer, va essayer la hem azé. Et Hachem dit effectivement, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple-là? Il le dit à un autre endroit, Amazé, Hara. C'est Irmiya qui, le navire Irmiya, Jérémie qui se plaint. Amazé, Hara. Kshem, Ksherim, Kouim, Ami. Quand les Bnei Israël sont kachers, c'est-à-dire quand ils se conduisent bien, ils sont appelés par Hachem, mon peuple, Ami. Shenemar shelach ami ou ami ma siti lecha on est nevim, etc. Shelach ami, c'est le let my people go. Quand là-bas, quand c'est ami, ça veut dire que on est ami avec Hachem, c'est-à-dire on est en bon terme avec Hachem. Donc il y a plainte. Voilà. On va continuer un peu sur quelques versets là-dessus. Alors, ils étaient vaihi ha'am ke mitonenim. Alors Rashi dit ein mitonenim ela lashon alila. Alila, c'est un prétexte. Mais c'est un terme qu'on utilise pour quand on parle des accusations de meurtre rituel. Ça s'appelle alilot dam. Les prétextes pour verser du sang. Et c'est aussi des prétextes où on accusait les Bnei Israël d'avoir versé du sang des chrétiens. On racontait qu'on prenait le sang des chrétiens à Pessah pour faire des matzot. Avant, ça faisait les accusations. Accusations qui ont accompagné l'histoire du clan d'Israël depuis le début jusqu'à pas si longtemps. Et à l'Ilot Dam, je crois que la dernière grande à l'Ilot Dam, c'est le procès Baylis en Russie.
1900.
Oui, c'est le début du siècle dernier. C'est une Alila. Alors, Alila, c'est vraiment un prétexte. Ça existe. Il y a un passouk qui parle des Alilot d'Hachem. Hachem aussi, si on peut parler comme ça.
Quelle
oui. Et effectivement, dans le Lusar Sfarad de Yom Kippour, on chante, on répète qu'El Nora Alila, de dire que Hachem, il est terrible par ses prétextes. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des prétextes? Parce que le Midrash dit quand Akadosh Baruch Hu a condamné Adam Arishon à devenir mortel. Alors Adam Arishon a dit à Hachem, il lui a dit, dis-moi, la Torah, elle a été écrite avant la création du monde, et tu parlais bien dans la Torah de la mort. Donc, C'est un prétexte. Tu as pris prétexte de ma faute pour me faire porter le chapeau. Mais c'est un prétexte. Mevakshim alila ech lifrosh me'achare amakom. Il cherche un prétexte pour se séparer d'Hachem. Renu Omer Beshimshon, au sujet du chauffette, Shimshon, c'était donc un des juges, qui, Dohana, hi, ou Mevakesh, pardon. Là, c'est la même chose. Lui aussi cherchait des prétextes, en fait. Et alors, le texte dit, c'est Ra Beosne Hashem. C'est considéré comme du mal qui est entré dans les oreilles d'Hachem. C'est de... C'est un argument qui est mauvais, insupportable aux oreilles d'Hachem. Pourquoi? Parce que chez Nitkavnim, chez Tavo Beosnav, Veyaknit, il voulait vraiment qu'Hachem l'entende. Et donc, ça a des mauvaises conséquences. Amrou, oi la nou. Kama la bat nou baderer azé. Combien est-ce qu'on a souffert dans ce chemin? Shlosha yamim, shelo nachnu, me inou yaderer. Pendant 3 jours, ils n'ont pas pu se reposer des fatigues du chemin. En vérité, pendant ces 3 jours, ils ont accompli un chemin, ils ont couvert un chemin qui aurait pris normalement beaucoup plus longtemps. Et enfin, pratiquement, il n'y avait aucune fatigue, parce qu'ils étaient quasiment, tout était plat, rendu plat par les ananim, par les nuées de gloire qui enlevait tous les obstacles, etc. Rien ne s'usait, il n'y avait pratiquement aucune fatigue. Donc c'était un vrai prétexte. Mais visiblement, on est quelques jours après le Sinaï, et ils veulent déjà se décharger des obligations qu'ils ont contractées au Sinaï. Donc, je reprends le verset. Vaishma Hashem. Donc, effectivement, Hashem a entendu. Vaichar Apo. Et sa colère s'est enflammée, comme ils disent. Vativar Bam Esh Hashem. Et il y a un feu qui vient d'Hashem, qui s'est allumé, en fait. Vatochal bikse amachane. Et ce feu a brûlé à l'extrémité du camp, c'est-à-dire de l'endroit où campaient les Bnei Israël. Et donc, les Bnei Israël ont été évidemment effrayés par ce feu dont ils pensaient qu'il allait venir et les brûler. Vaitzak ha'am el Moshe. Alors, le peuple a crié en direction de Moshe. C'est-à-dire, ils ont traduit par « ils ont imploré Moshe ». C'est-à-dire, ils ont crié pour au secours. Ils sont tournés vers Moshe pour que Moshe les protège. Alors, « Vait palel Moshe el Hashem ». Alors, Moshe a prié Hashem. « Vatishka ha'esh ». Et le feu s'est éteint. Alors Moshe a nommé cet endroit-là, Vaikra Shem Hamakom Ahu, il a nommé ce lieu Tav Era. Il a nommé cet endroit Tavera, parce que la racine de brûler, qui Ravam Esh Hashem, parce que le feu d'Hachem avait brûlé parmi eux. En Rashi, Rabbe Ozne Hachem, c'était mal aux oreilles d'Hachem. On a dit Tana Sheira Beozne Hachem, Shemit Kavnim, She Tavoa Beoznam, je l'ai déjà lu, Viaknit Amru Oilanu Kamal Abatnu Be. Ensuite, donc ça on avait déjà traduit, Vaichar Apo. La colère d'Hachem s'est enflammée, donc. Alors, Rashi, Ani Haiti Mitkaven le Tovatrem. Donc, on explique pourquoi Rashi explique pourquoi Hachem s'est mis en colère. Dis-moi, j'ai fait les choses pour votre bien. J'étais Kansula, pourquoi on ne s'est pas arrêté? Pour que vous puissiez entrer immédiatement, puisque le but de l'exercice, c'est que vous soyez en Eretz Israël. Alors, je vous ai aidé à entrer en Israël le plus vite possible. Et sous-entendu, Hachem s'est mis en colère parce que eux, ils ont interprété le fait qu'ils ne se soient pas arrêtés comme une souffrance qu'Hachem leur a imposée qui était absolument inutile. Eux, ils disent, oh ben, on aurait très bien pu faire un jour de marche et un jour de repos, un jour de marche et un jour de repos. Alors, le feu a brûlé Biktsea Machane, à l'extrémité du camp, Ben Muktsin Shebaen, le Chifloute. Eloherevrav. C'est-à-dire, alors là, Rashi fait une interprétation. À l'extrémité du camp, qui est-ce qui campait à l'extrémité du camp? C'est le fameux Erevrav, qui sont les gens qui sont Muktzin Shebaem, ceux qui sont mis de côté, ceux qui participaient pas complètement dans le peuple. Elo Erevrav. Ça, c'est l'interprétation de Rashi. Tout le monde ne pense pas comme ça. Rabbi Shimon ben Menassier Omer, Bektsinim Shebaem, Bagdolim. Vous voyez, il y a Rabbi Shimon ben Menassier, il pense au contraire que c'était les chefs qui résidaient ici à l'extrémité du camp. Donc effectivement, c'est les chefs qui sont toujours d'abord responsables, parce qu'ils n'ont pas, guidé le peuple de la bonne manière. Alors, Vaitsak Ha'am El Moshe, alors c'est étonnant, ils voient que c'est un... On voit très bien que eux n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié Hachem. Ils sont tournés vers Moshe. Ils savaient bien que, et on a vu que c'est même intentionnel, ils voulaient qu'Hachem entende leur plainte. Pourquoi ils se tournent vers Moshe? Alors, Rashi dit, Machal, le Melech Bassar Badam, Shekaas al Beno. Alors, on donne un machal, une parabole en fait. C'est un roi de chair et de sang qui se met en colère contre son fils. Alors le fils, il va chez l'ami du roi. Et Amarlo, c'est au bakesh alai, mais Abba va et Prie pour moi, enfin, obtiens le pardon de mon Père pour moi. Ça veut dire que, c'est comme ça dans la parabole aussi, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on est en tellement mauvais termes avec le Père, en l'occurrence, qu'il n'ose même pas aller lui parler. Il s'est conduit de telle sorte qu'il a, d'une certaine manière, coupé les ponts avec son Père. Donc, il ne peut pas venir maintenant demander une faveur à son Père. Alors, il fait un détour, quoi. Il va demander à quelqu'un qui aura l'oreille de son Père d'aller parler pour lui. Donc, les Bnei Israël sont tout à fait conscients qu'ils ne peuvent pas prier, ils ne sont pas en situation de pouvoir prier, parce que ce qui les frappe là maintenant, c'est quelque chose qu'ils ont parfaitement mérité. Donc, il est exclu de prier directement. Donc, ils vont demander à l'ami d'Hachem, qui est Moshe Rabbeinu, d'aller intercéder pour eux. Bon, il faut passer par quelqu'un qui est susceptible de pouvoir commencer à parler du fils du roi. Il faut vraiment qu'il soit un bon ami du roi pour que le roi le laisse parler, alors que quand il va mentionner le fils, on va s'attendre à ce que le père, et je veux rien entendre, et ben, je veux rien entendre à son sujet. On compte que l'amitié de l'ami du roi avec le roi lui permet à cet ami de parler, de commande de parler, et de pouvoir mentionner le fils et commencer à négocier. Alors c'est important parce que ici ça veut dire qu'il y aurait donc des situations dans lesquelles on ne peut pas prier, quoi. On comprend que avec ce que j'ai fait, je ne peux pas prier. Pardon? Oui, c'est ça. On ne peut pas prier parce que on n'ose pas se présenter, etc. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait alors? Si quelqu'un a fait une avéra dont il pense, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'elle est gravissime, comment il fait? Il voit qu'Hachem se fâche. Hachem le sanctionne. Et la sanction, elle est difficile à supporter. Comment est-ce qu'il fait pour comment est-ce qu'on fait si on n'a pas la ressource de pouvoir passer par quelqu'un qui a l'oreille du roi?
Si jamais on parle ici de une faute que les ministres ressentent comme une sorte de gêne pour se rapprocher d'Hachem. Mais ça veut dire que c'est eux qui sont les propres juges de cette honte.
Bon, mais là, on dit quand même que c'était Rabbeinu Hachem, Bozne Hachem. Donc c'est mal. C'est eux qui le jugent. La Torah dit que c'était vraiment mal ce qu'ils ont fait. Cette Alila, elle est vraiment inacceptable. On va voir plus loin que on dit que les Bnei Israël sont, ils ont quitté Har Hashem, ils ont quitté le, dans le texte, ils sont partis de la montagne d'Hashem. Alors, le, parler de la, du Har Hashem, les Chazal vont dire, ils vont lire non pas Har, mais Har Hashem, mais me acharé Hashem. C'est-à-dire, ils ont voulu s'éloigner d'Hashem. Et il donne l'exemple, c'est comme un enfant qui, à la sortie de l'école, il s'enfuit en courant. De peur que jamais, si jamais la maîtresse du coup, le rappelait. Donc, ils se sont enfuis en courant du Sinaï, de peur qu'Hashem leur donne encore plus de mitzvot.
Mais peut-être aussi, ils se sont enfuis parce que ils savent que Hachem est bon avec eux. Et comme ils ont eu cette proximité avec Hachem, c'est comme s'ils veulent mettre Hachem dans leur poche, entre guillemets, pardonnez-moi ce vocabulaire, Autant ils se sont rapprochés, ils ont eu la Torah, autant maintenant ils veulent s'éloigner. C'est toujours ce va-et-vient. Et là, ils cherchent à. Ils ont pas la bonne position, en fait, comment être vis-à-vis d'Hachem. Et quand ils demandent à Moshe d'intervenir, je le vois plutôt comme des enfants encore. Il va nous pardonner, Hachem va nous pardonner. Est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Est-ce que vraiment ils craignent
Ça,
Hachem?
c'est. Oui. Ça, c'est quand vous sortirez votre Sefer, notre commentaire d'Odile. Mais Rachid, il dit pas comme ça. Pas
ah,
comme
ouais.
on a vu.
Mais y a
Rachid
pas
dit autrement.
Ouais,
Mais
y a pas
c'est un commentaire comme un autre, hein.
Ouais.
On pourrait lire comme ça, mais je ne crois pas. En fait, c'est autre chose, parce que l'exemple de l'enfant qui ne peut plus parler à son père, c'est vraiment. Ce n'est pas qu'il compte que Hachem va lui pardonner. Ils ont ce recours-là. Parce qu'ils voudraient bien revenir, ils ont compris qu'ils ont mal fait, ils voudraient revenir. Alors, ils passent par. Par Moshe, parce que c'est le seul moyen de pouvoir reparler. C'est ça, je crois, que Rashi veut dire. Le problème, c'est est-ce qu'ils ne reviennent vers Hachem que parce qu'ils ont eu peur du feu, ou est-ce qu'ils ont compris que ce qu'ils avaient fait était mauvais et que c'était inacceptable? Quelqu'un là? C'est bon, hein.
Les Tehillim, on reprend souvent ces passages-là aussi. On les dit parce que le peuple a fauté, parce que ils n'ont pas entendu Hachem, parce que donc on fait porter la culpabilité sur le peuple, mais on les juge comme irresponsables, comme des enfants, et pas comme des êtres à part entière qui prennent le problème à bras le corps.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent Hachem a bien voulu considérer que la faute n'était pas si grave, parce que c'est une faute qui est peut-être qu'on peut mettre sur le compte d'un manque de maturité. Mais là, en l'occurrence, ici, j'ai pas tellement l'impression que ce soit comme ça. Enfin, à mon avis, c'est pas comme ça que. C'est pas ce que Rachid dit. Et en fait, les Bnei Israël ici, vous voyez, Rachid nous a dit que le feu, il a pris, et il y a deux versions. Le feu a touché ou bien les Révraves, ou bien les chefs. Et le feu qui est au bout du corps. Rachid a donné deux explications. Si on dit que c'est le Révrave, C'est-à-dire que, à la limite, si le feu il touche le Erev Rav, ça veut dire que le Erev Rav était partie prenante dans cette démarche des Bnei Israël, qu'on a déjà vu plusieurs fois, quand on a parlé effectivement du Erev Rav. Souvent, c'est le Erev Rav. Alors, ou bien directement ou indirectement, par la présence du Erev Rav dans le clan d'Israël, ça a déclenché chez les Bnei Israël. Et à ce moment-là, c'est les Bnei Israël qui font les fautes, mais ils les font, certains ont expliqué, à cause de la présence de cet élément étranger, de ces idolâtres, en fait, dans le clan d'Israël, et qui sont un peu amalgamés, qui sont acceptés, pas acceptés, c'est pas très clair. Alors, ça a une mauvaise influence. Ou alors, on dit, comme on dit certaines fois, que c'est vraiment eux qui ont déclenché ce mouvement-là. Et les Bnei Israël sont des suiveurs, avec toujours ce fameux problème qu'on a déjà soulevé au moment on a parlé du veau d'or. Comment se fait-il que le clan d'Israël, qui est beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'a priori ce qu'on considère être le Erev Rav, comment se fait-il qu'eux suivent les idées du Erev Rav, qui sont quand même relativement des étrangers. On avait donné comme explication que quand on ne sait pas quoi faire, ce qui était le cas des Bnei Israël, qui ne savaient pas comment on donne du poids à ce fameux veau d'or, alors si quelqu'un vient et dit « moi je sais », alors peut-être on le suit, même s'il est minoritaire, même s'il n'est pas vraiment de chez nous, etc. Bon, ça reste une question. Ça, il y a au moins plusieurs façons de lire les choses. Mais ici, semble-t-il, donc, ou bien on dit comme premier pshat dans Rashi, c'est effectivement avec les deux façons de lire le Rav, ou alors c'est pas du tout le Rav, mais ce sont les chefs qui sont responsables de ne pas avoir guidé les Bnei Israël, de ne pas avoir calmé ou rassuré, etc. Alors, ça va dans votre sens. Ça veut dire que les Bnei Israël ne sont pas vraiment fautifs, ou bien ils ont été les suiveurs par rapport au Erev Rav, ou alors ils ont été mal dirigés par leur chef. Alors, on peut dire qu'effectivement, mais à ce moment-là, les Bnei Israël ont quand même senti que la colère d'Hachem, elle est contre eux aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle serait contre eux si eux ne sont que des suiveurs ou que des gens qui ont été mal conseillés, mal gouvernés? Donc, peut-être ça vient dire justement que quand c'est quelque chose qui est d'ordre d'un Avodah Zara ou bien de la révolte contre Hachem, c'est une tentative, telle que c'est présenté par Rashi, c'est une tentative de trahir son engagement. Ils se sont engagés et maintenant ils veulent se dégager. Mais achoré Hachem, ils veulent s'éloigner d'Hachem. Et ensuite, justement, donc Moshe Rabbeinu a obtenu que le feu s'éteigne. Vaikra Hachem amakom ha'utavera, qui Bam, Bam, Esh Hashem, donc il a nommé l'endroit Tavera. Ça aussi, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il faut qu'il le nomme comme ça? C'est un endroit dans le désert, il est nécessaire de lui donner un nom. Et il faut lui donner un nom qui rappelle la faute des Bnei Israël. Comme si c'est fondamental, on verra à plusieurs reprises que Moshe Rabbeinu va donner des noms au lieu, en fonction de ce qui s'est passé dans ces lieux-là. Comme si c'est un désert, alors il n'a pas de nom, quoi, si vous voulez. On va pas dire c'est la dune numéro 456, je veux dire. Et là, il va donner des noms. Et les noms qui vont perpétuer, si on peut parler comme ça, le souvenir de la faute d'Ebné Israël. C'est comme s'il fallait, d'une certaine manière, inscrire la faute dans l'espace. L'inscrire sur la terre. Mais pourquoi ça? Surtout qu'a priori, les Bnei Israël ne reviendront plus, là. A priori, ils sont partis maintenant pour. Dans 3 jours, ils sont en Eretz Israël. Et bon, ils n'ont pas de raison de revenir dans le désert du Sinaï. Quoi ça sert de nommer cet endroit-là? Pour qui? Pourquoi? C'est quoi pour les tribus nomades dans le désert qui, eux, vont pas tenir compte du nom que Moshe a donné? C'est tellement important que c'est devenu un verset de la Torah. C'est même pas une dracha, vous avez un verset entier de la Torah pour dire que Moshe, il l'a appelé Tavera. Oh, putain, pourquoi il faut l'appeler Tavera?
Peut-être que en ciblant l'endroit par des paroles et en mettant un nom sur un lieu, même si on ne revient pas sur ce lieu, ça marque la mémoire et on peut y faire aussi un tikkun. Et puis c'est ce qu'il va faire dans la paracha de quand il va tout leur reprocher les endroits, il va citer tous les endroits un peu plus tard. Pour justement bien marquer qu'à cet endroit-là, il y a eu quelque chose. On ne passe pas.
Non, c'est bien. Évidemment que si on donne ce nom-là, c'est pour qu'on se rappelle. Mais pour qui, pourquoi? Je veux dire, pourquoi il faut dire que ça s'inscrive dans le désert? Je veux dire, c'est pas encore à la limite en Eretz Israël qu'on va donner des noms. En fonction de la conduite des Bnei Israël sur la terre sur laquelle ils vont vivre, je peux encore comprendre. Mais en plus, c'est un souvenir indélébile de la faute des Bnei Israël. Bon, c'est pas d'habitude quand on donne un nom à un lieu, c'est pour la gloire de cet endroit. D'accord,
pour rappeler la honte.
Waterloo, c'est à Londres, c'est pas ici. C'est une station à Londres, c'est pas en France. Oui.
Pour rappeler la honte.
Ben oui, mais le problème, c'est, vous êtes en train de dire que, voilà, c'est la honte, mais la question, c'est, qu'est-ce que c'est que cette opération d'inscrire dans le désert, inscrire sur la terre, nommer un endroit d'après la conduite des Bnei Israël à cet endroit-là?
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le fait de donner un nom, c'est de mettre une distance par rapport à la faute, justement? On va matérialiser la faute dans un endroit, et les Israéliens n'étant pas justement dans cet endroit par la suite, ils ont une distance par rapport à ça, et ils s'éloignent de cette faute.
Je n'ai pas tout compris.
C'est mettre la distance par rapport à ça, par rapport à cet événement.
Oui, alors on peut lire les choses en disant que il faut mettre un terme. Et l'écrire, c'est mettre un terme. Voilà, c'est fini. C'est une façon de clore la chose. Voilà, c'est écrit, un point, c'est tout. On ferme. Peut-être que c'est nécessaire, effectivement, comme un. Alors, est-ce que dans la vie de quelqu'un qui fait tshuva, est-ce qu'il faut qu'il marque les endroits où il a fait des bêtises, par exemple? Alors, les Bnei Israël ont certainement. Pourquoi on ne dirait pas que les Bnei Israël ayant fait tshuva, on n'a pas besoin de l'écrire? C'est un peu problématique. On va laisser ça ouvert, hein, pour l'instant. Je ne sais pas comment il faut vraiment l'interpréter.
Le fait que ce soit marqué, que Moshe Rabbeinu nomme l'endroit à ce moment-là,
oui.
Ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu a mis une affiche là-bas.
Mais s'il l'a nommé, c'est écrit dans la Torah.
C'est oui, important, c'est marqué dans la Torah.
Mais qu'est-ce que.
C'est un enseignement.
Pourquoi est-ce qu'il faut. Non, mais l'histoire, elle est écrite dans la Torah.
Oui.
On ne dit pas que Moshe, il a donné un nom à cet endroit-là. C'est marqué dans la Torah, tu verras. D'accord? Alors maintenant, qui est su ce feu et tout ça, c'est écrit déjà. Alors qu'est-ce que nous apporte le fait que la Torah nous dise que Moshe Rabbeinu l'a inscrit dans le sol. Enfin, il l'a inscrit. Il l'a, ouais, il l'a nommé, comme tu dis, il n'a pas mis une affiche. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire de nommer un endroit si on ne met pas une affiche. Je veux dire, on ne met pas un signe, je ne sais pas, qu'à cet endroit-là, il faut réduire la vitesse, hein, comme les enfants qui vont à l'école à cet endroit. Je ne sais pas. Et...
Quand vous avez expliqué le processus de Tshuva, bon. Quand vous nous avez expliqué le processus de Tshuva,
oui.
Vous nous dites qu'en fait il faut exprimer la faute, prendre la distance par rapport à la faute.
Pour prendre la distance, il faut l'exprimer, la mettre en dehors.
Et le nommer, c'est pas le mettre en dehors, mais...
Si vous voulez, quand on fait la mise en dehors, c'est sous forme de vidouille. Donc, on exprime la faute et on fait tshuva sur la faute. Ici, c'est pas la faute qui est écrite. C'est tavera, c'est le feu. Non, c'est pas.
C'est la sanction.
C'est qu'il y a eu un feu divin à cet endroit-là. Alors, on pourrait dire que si le feu divin comme quand vous faites un feu de camp et vous partez. Alors, il reste la trace du foyer, en fait. Est-ce que c'est ça que mon cher Rabbeinu a donné ça? Voilà, ça t'avéra. On va laisser une trace du fait qu'il y a eu la sanction d'Hachem à cet endroit-là. Alors là, ça irait mieux dans le sens de... Avec ça, on en a terminé. Ouais. On va écrire que, voilà, c'est fini. Comme quand on... Voilà, on a acheté de l'eau sur le feu de camp, là, on l'a éteint, mais maintenant il reste des trucs carbonisés, on voit des traces noires, carbone, etc. Combien de temps ça va durer? On ne sait rien, dans le désert ça ne va pas durer longtemps non plus. Donc c'est une façon de, ce serait une façon de dire on va en terminer, parce que l'action d'Hachem maintenant elle s'est... Et c'est pas simplement dans notre mémoire, c'est à la fois dans le texte de la Torah et dans la réalité. Et moi, je trouve qu'il l'ait appelé, ça, je comprends, enfin, mais que ce soit devenu un verset de la Torah. On sait combien la Torah est économe de chaque mot, qui est tout un verset pour dire qu'il l'a nommé. Et, ça verra, je trouve ça surprenant.
C'est comme quand Avraham Avinu, il nomme aussi...
Pardon?
Avraham Avinu aussi, il nomme... Quand on dit qu'il prend un hôtel et qu'à cet endroit-là... C'est...
Oui, mais non, parce que là-bas, il montre que... où c'est la trace d'une alliance, et donc là, il faut matérialiser l'alliance. OK, on laisse pour l'instant. Encore juste un mot. Bon, personne, je vois pas que quelqu'un parle de ça, mais il faudrait juste. Si vous regardez le verset Guimel, là, Vaikra Hashem amakom ahou tavera, ki vohara bam.
Écrabouché.
Esh Hashem. Bam, c'est l'Ebné Israël. Donc normalement, on aurait dit, on va l'appeler cet endroit-là, ki vohara bo Esh Hashem. Cet endroit-là, c'est l'endroit où le feu d'Hashem a brûlé. Non, c'est ici ce qu'on veut marquer. C'est que le feu d'Hachem a brûlé l'Ebné Israël à cet endroit-là. Enfin, il a brûlé, il a menacé l'Ebné Israël de les brûler. Mais alors ça, vraiment, même si on l'appelle Tavera, on n'entend pas la connotation, c'est l'Ebné Israël. On voit qu'il y a eu le feu d'Hachem, mais on n'en sait pas plus, quoi, finalement. C'est pas Barabo, mais Barabam, les Chachem. Ok, on continue. Veras pasuv, asher bekirbo, itavu tava, veyashuvu vayivku gam bnei Israël, vayomru, mi achilenu basar. Alors, le aspasuv, c'est un drôle de mot. Que eux ont traduit ici dans le Stone, ils ont traduit par la populace. Alors, Rashi dit que le Haspasouf, c'est Elu Erevrav, Shenesfu Aleihem Betsetam Mimitsraim. Dans le mot Haspasouf, il y a Asaf, c'est-à-dire il y a la racine qu'on retrouve dans le mot Moussaf, etc. Et c'est l'ajout. Il s'appelle comme ça, le Révrav, parce qu'ils se sont ajoutés aux Bnei Israël quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Alors, le Haspasouf qui sont parmi eux, cette fois-ci, maintenant, on est en train de parler. Alors, est-ce qu'on est en train d'expliquer ce qui s'était passé? Voilà, ils ont cherché des prétextes pour se détacher d'Hachem. Maintenant, on nous dit que le Haspasouf, qui était parmi les Bnei Israël, ils ont, alors c'est une drôle de formule, ils ont désiré du désir. Itaavu taava. D'accord, la redondance ici. Veyashuvu, et ils ont recommencé. Yashuvu, oui. Vayivku, et ils ont pleuré. Gam bnei Israël, et les bnei Israël, eux aussi, recommencé à pleurer, à se plaindre. Vayomru, et ils ont dit, ça y est, on a trouvé un truc, on va pouvoir, voilà. Mi achilenu basar. Qui est-ce qui va nous donner à manger de la viande? Et alors maintenant, ils vont se raconter des histoires. Zacharnu et adaga asher nochal b'Mitzrayim hinam. Nous nous souvenons, Zahar, nous nous sommes souvenus plutôt, et à Daga, le Daga c'est la chaîne Dag, c'est le poisson, Daga c'est l'ensemble des poissons, de la bouillabaisse, bon, je sais pas si c'est celle-là, Asher nochal b'Mitzrayim, Pinam, que nous mangions en Égypte gratuitement. Et ta kishouim, les concombres, et ta avatichim, les pastèques, les melons, et tes khatsir, les poireaux, ta batselim, les oignons, et ta choumim, et l'ail, vraiment une soupe de poisson importante, non? Et bon, tout y est. C'est un vrai bouillon de poisson. Qu'est-ce que vous en pensez, je...
C'est que des aliments qui sont très riches en eau. Les poissons viennent de l'eau, les pastèques, les concombres, tout ça, ça c'est gorgé d'eau quand on les cuisine.
Ouais.
C'est beaucoup arrosé. Les oignons aussi, c'est très... Tout est eau.
Oui, c'est juste.
Ils ne disent pas de viande, ils ne disent pas de pain.
Peut-être que ça permet de... Si c'est plein d'eau... Ça permet de tenir au grand soleil, qu'on entend d'être pas déshydraté. Alors, ils se souviennent de tout ça, dans le détail. Et il a toujours ce côté rinam. Rinam, c'est gratuit. Donc, vous voyez, c'est des esclaves qui disent on a mangé gratuitement. C'est-à-dire, on t'a donné à manger pour que tu puisses mieux travailler. Et encore, quand ils disent qu'ils ont mangé, du poisson. Ils se mangeaient peut-être des petits poissons, c'est.
Mais on ne dit pas que les femmes, elles habitaient aux hommes.
Oui, aux hommes. Et ça, c'était aux. C'est des petits poissons, c'est pas d'agas, c'est des petits poissons qui étaient pratiquement. Enfin, je pense, il y a le Nil, et dans le Nil, il y avait des poissons, donc quand on allait chercher de l'eau, il y avait des poissons aussi. Mais le problème ici, ils ne te disent pas qu'on a mangé des poissons seulement. Les poissons, c'était vraiment, il y avait tout ça et tout ça était gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, ils font comme si là, on leur demandait rien du tout et on leur donnait à manger, quoi. Alors qu'ils étaient esclaves. Achim, Vayashuvu. Gamene Israël, Vaivku Imahem. Donc, le Erev Rav, ils se sont plaints, et les Israël sont venus pleurer avec eux. Et ils ont demandé, Mi Achilen Ubassar. Alors là, on est très ennuyés. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui va nous donner à manger va nous donner de la viande? Rachid dit, Vrilo Ayalaim Bassar, ils avaient de la viande. Valokvar Neymar, Vegam Erevrav, Ala Itam, Vetson ou Bakar, Gomer. Dans les psukim de Sefer Shemot, c'est marqué qu'il y a des troupeaux. Il est venu Israël, quand ils sont sortis avec des troupeaux. Le Erevrav et des troupeaux. Vim tomar achaloum. Et si tu dis, ben, entre temps, ils les ont mangés. Ils ont mangé ce qu'ils avaient de viande. Valo beknisatam laaretz neemar. C'est impossible. Quand ils vont entrer en Eretz Israël, 40 ans plus tard, il est dit, ou mikne rav, aya livne reuven. Les descendants de Reuven et les descendants de Gad. Ils avaient de très très grands troupeaux. C'est pour ça qu'ils ont demandé à s'établir de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire de ne pas passer le Jourdain. Ils voulaient avoir des territoires qui étaient de meilleurs pâturages pour leurs grands troupeaux. Tout ça, c'est pas vrai. Et là, dit Rashi, encore une fois, Vakshim Alila, ils cherchaient un prétexte. Et dans le prétexte, on peut être de mauvaise foi. Mi achilen ou bassar, ils savaient très bien qu'ils avaient de la viande. On peut être de mauvaise foi pour essayer de dire à quelqu'un qui n'est pas au courant, mais à qui est-ce qu'il disait mi achilen ou bassar? Ils se disaient à eux-mêmes. Il n'y avait pas d'égoïmes autour auxquels ils étaient en train de demander de leur fournir de la viande. C'est-à-dire que quand on a décidé de mauvaise foi, il n'y a rien qui nous arrête. On est capable de dire mi achilen le bassar alors qu'ils ont du bassar.
Qu'est-ce qui permet de résister par rapport à une pression?
Qu'est-ce qui permet
à l'homme qui permet à l'homme de résister par rapport à une pression collective.
Mais quelle pression il y a là?
Si on a un RF grave qui oriente.
Bon, alors le problème, disons que. Alors, c'est un peu intéressant parce que dans Rashi, c'est marqué, les Bnei Israël sont venus pleurer avec eux. Ils ont pleuré, on n'a pas. Alors que si on veut, on peut même lire que, tels que sont les psukim, les troupeaux qui sont venus, c'était les troupeaux que l'Erev Rav a amenés. Parce que c'est marqué Vegam Erev Rav. L'Erev Rav est monté avec eux et aussi les troupeaux, etc. Donc les troupeaux, ils sont presque. Ils sont écrits juste à côté du Erev Rav. Mais en fait, on sait très bien que les Bnei Israël, même quand ils étaient esclaves, ils avaient des troupeaux. À Goshen, ils avaient des troupeaux. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien le genre d'esclavage que c'était. Ils étaient riches, ils étaient réduits en esclavage, mais ils étaient riches. Ils avaient des troupeaux. Et là aussi, en ce moment, il y a des troupeaux, mais ils ont réussi dans les 40 ans à agrandir leurs troupeaux. Donc, c'est une alila, dit Rashi. Asher nochal me mitzraim chinam. On a mangé cette daga, la fameuse bouillabaisse, là, ils l'ont mangé gratuitement. Vim tomar, shem mitzrim notnim laem dagim chinam. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Égyptiens leur ont donné des poissons à manger gratuitos, gratuitement. Valokvar neemar, Veteven loinaten lachem. C'est même marqué que même la paille dont on a besoin pour fabriquer les briques, ils ne l'auront pas donné. Azim teven lo ayu notnim lahem chinam. Dagim ayu notnim lahem chinam. Mahu omer chinam. Parce qu'il faut comprendre, le chinam, ça n'a strictement aucun sens. Les esclaves, quand on leur donne à manger, c'est bien sûr, ils n'ont pas besoin d'acheter à manger, mais on leur donne à manger pour qu'ils puissent travailler. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot ici, finam? Finam veut bien dire gracieusement. Mais c'est finam mina mitzvot. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin de faire des mitzvot. Donc, ce qu'ils veulent, ils veulent pas de la viande. Ils veulent de la viande sans avoir besoin de faire des mitzvot. Alors c'est clair qu'a priori dans le désert, on pouvait peut-être avoir de la viande, mais des poissons, ça, dans le désert, c'est un peu compliqué. Alors en fait, il y a un Ramban qui dit que la viande, ils en avaient, mais ils n'en avaient pas au point de pouvoir en manger tous les jours. Le poisson, on ne pouvait pas du tout l'avoir. Et Ibn Ezra dit qu'en Égypte, le poisson il était tellement abondant dans le Nil que ça ne coûtait rien. C'était vrai. Vous pouvez avoir du poisson gratuitement. C'est pour ça que Rashi rapporte qu'en vérité, quand ils disent finam, ils veulent dire finam mina mitzvot, sans avoir besoin de faire des mitzvot. Ici, Hachem nous donne des choses, mais il faut faire des mitzvot. Donc, quelque part, ça veut dire que ce n'est pas gratuit.
Ça Ça veut dire qu'il y a une notion de salaire, de rétribution.
Pour les mitzvot. Oui, bien sûr. Ils considèrent que ce qu'on nous donne, c'est seulement au rata des mitzvot qu'on fait quasiment. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que même à supposer qu'ils n'aient pas eu de viande, mais ils ont la manne, et la manne, elle a le goût de ce que tu veux, elle a le goût de viande aussi. Alors comme ils disent, Ata, et maintenant, Nafshenu Yevesha. Et maintenant, Nafshenu, c'est-à-dire notre âme, notre vie, est complètement sèche, desséchée. En kol bilti elaman enenu. Il y a rien. La seule chose qu'on voit, c'est de la manne. Ve'aman, ça c'est un commentaire de la Torah, quoi. Ve'aman ki zragad ou ve'enoken abdolach. Et la manne, c'est comme de la graine de coriandre. Et sa couleur est la couleur du bdolar. Je ne sais pas très bien ce que c'est ce bdolar. Alors, Rachid va nous aider un petit peu là-dessus. Ah, alors, j'ai pas lu les Rachid, là. De la recette de la bouillabaisse. Alors, et à Kishuim, Amar Rabbi Shimon, Mipnema, Aman Mishtane, le Choldavar, Utsme Elu. Alors, la question c'est, il mangeait de la manne? Donc la manne, elle pouvait avoir toutes les consistances, tous les goûts. Et Rabbi Shimon dit que elle n'avait pas le goût de ces choses-là qui sont mentionnées. Il y avait des trous dans le spectre des choses que la manne pouvait fournir. Alors Rashi, on va expliquer pourquoi. Ibn Shem Kashim, la Ménicote. Parce que toutes ces nourritures-là, elles sont pas très bonnes pour les femmes qui sont en train d'allaiter. Zomrim, parce qu'on dit, Laïcha, Al-Tochlishoum ou Batzel, dit aux femmes, ne mange pas des oignons ou de l'ail. Ibn Shem Atinok. Ibn Shem Atinok. C'est pas bon pour le nourrisson. Donc la manne, elle n'avait pas ce goût. C'est intéressant de voir que si la manne avait eu ce goût, elle aurait aussi eu les inconvénients de l'oignon et de l'ail. Pourquoi on ne peut pas imaginer avoir le goût de l'ail et de l'oignon sans avoir les inconvénients qui passent dans le lait maternel? Des fois, c'est étrange que la Torah dit des choses absolument énormes, quoi, sur la manne. Tout à coup, ça, non, ça, non. Alors, à Kishuim, alors, concombre, melasse, concombre, oui, c'est bien, ça ressemble bien. Avatichim, Bodikes. On sait comment on dit.
Pastèque.
Pardon?
Pastèque.
Les pastèques. Pastèque.
Oui. Aujourd'hui, à Batia aussi.
Hein? Oui, non, bien sûr. Non, mais là, il traduit Rachid, il dit quelque chose. Bodikes.
Bodikes.
Pardon?
Ça sonne pas pareil, vous vous dites qu'est-ce qui se passe là?
Peut-être, si ça sonne comme ça, vous aurez, ça suffit. Véachatsir, Rachita, c'est les poireaux. Ali, Borilas, poireaux. Et la man est nénou. Man bashachar, man baerev. Ce qui veut dire, on avait toujours, toujours la même nourriture, de la manne le matin et la manne le soir. Heureusement qu'ils ne mangeaient pas trois fois par jour, parce que sinon ils ont trois fois par jour dans la manne. C'est ce qu'ils disent, donc on voit que la manne. Et alors on nous dit, la manne, elle était que Zahagad, Miché Amarzou, Lo Amarzou. Donc il y a plusieurs explications là qui sont données de. Ou bien on dit qu'Israël et Inokéen Abdolar. Israël Omrim, Bilti, Elaman et Nenu. Verakadosh Bokhu, Irtiv Batorah, Vaman Kisragad. Donc les Bnei Israël disent, on voit que de l'Aman, nuit et jour. Et Hachem dit, mais l'Aman c'est extraordinaire. Le maru de i olam alma mitlonim banai. Ah, ru bae olam. Que les gens voient sur quoi mes enfants se plaignent. Vaman kan kachwe kachu. Rachouv. La man, elle a toutes ses bonnes qualités là, et ils se plaignent. Kizra Gad, Agul, Ke Gida, Zra, non, ça c'est quoi? Alain Drouin. C'est ce fameux coriandre là? Alain Drouin. Dollar, Shem Even Tova, Pistal. Ouais. Bon, c'est complètement transparent, c'est comme du cristal. Et les Bnei Israël, ils allaient récolter ça. Ensuite, ils le mettaient dans les moulins. Enfin, donc, c'était moulu dans une meule. Ou alors pilé au mortier. Et on la cuisait, par où? On traduit ici au pot. Vassou auto ou got, on en faisait des gâteaux. Yatamo, kitam, léché de la chamelle. Et le goût, c'est le goût d'une pâte pétrie à l'huile. Ça, c'est un truc pour Tunisien. C'était même pas la pâtisserie au beurre. Hein. C'était avec l'huile.
Ah, c'était pas si gratuit que ce truc, mais gratuit. Il devait la cuisiner, il devait piler, C'est du travail, c'était pas si simple.
Mais d'un autre côté, si tu fais, ça permettait de faire quelque chose. Effectivement. Et ensuite, Ubered et Atal à la Machane Laila, Yaranaman alaf. Et quand la rosée descendait sur le camp pendant la nuit, la manne descendait sur elle. Donc la manne, on la trouvait sur une couche de rosée. Rachidi, L'échelle de la chemin, les chlouches de la chemin, il y avait une trace grasse, donc. Il se donne. Mais domé l'eau, ne parle pas. Chadaï, Aroné, Kaïs, Kaïn. Bon, le. Et alors, c'est pas, donc là, ils se sont plaints de, qu'il n'y avait pas à manger, ils se plaignent de ce qu'il y a à manger aussi. Et Moshe a entendu le peuple pleurer. Donc, j'en traduis groupé par famille. Ish le fait à Paolo, chacun l'attend à l'entrée de sa tente. Vaichar af, de nouveau Hachem, meod. La colère d'Hachem s'est enflammée très fortement. Véné Moshe ra. Et aux yeux de Moshe, c'était mal. Pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est encore, encore un peu plus grave. Rabotainu Pirchou. Donc ça c'est la suite du Rashi sur sur la manne. On va juste lire la suite plutôt. Bochel mishpechotav sur le pasuk yud. Mishpechot mishpechot ne'safim par famille se rassemblaient. Bochim, et il pleurait, le farsem, ou publier, tarumatan begaloui, ou publier leur récrimination, ouvertement. Le raboté nous amrou et nos maîtres ont dit que le mishpechotav, pourquoi il pleurait, aliske mishpechot, sur les problèmes de famille, c'est-à-dire à la rayot, à Nesarot, la M.
Une fois que c'est parti, ça s'arrête plus.
Pardon?
Une fois que c'est parti, ça s'arrête plus.
Alors qu'est-ce qu'il promet? C'est-à-dire, en tant que Bnei Noir, il y avait certaines femmes qui leur étaient particulièrement proches, sa mère, son, etc., avec lesquelles ils n'avaient pas le droit d'avoir des rapports. Mais avec le, dans la Torah, il y a la liste des harayot, la liste des femmes interdites, elle est plus longue. Donc, il pleurait sur les femmes qui leur étaient pas permises, ou les femmes sur les hommes qui leur étaient pas permis, à cause de la nouvelle loi, en quelque sorte. Donc, ils se plaignent de quelque chose de, si on considère que les lois sont un peu d'un type incestueux, ils se plaignent de ne pas avoir accès à des relations qui ont un parfum d'inceste. Et c'est pour ça qu'ils pleurent. Ils pleurent pour les femmes qui leur sont interdites, pour les femmes, pour les hommes qui leur sont interdits. Donc ça veut dire, on n'a pas assez à manger, etc. Ah, ben finalement, ultimement, sauf c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, ce qui se passe, c'est, il y a des restrictions quant aux relations sexuelles qu'on peut avoir, et ça, c'est insupportable. Ça, tout le monde pleure. Ils n'ont pas honte, ils pleurent. Dans les familles, ils pleurent parce qu'ils ne vont pas avoir ensemble des relations sexuelles. Quoi. C'est assez fort. Quoi. Voilà, on va s'arrêter là. Pardon?
Par rapport à la faute du Vaudor.
Du Vaudor?
Les femmes ne participaient pas, là, elles participent.
Ouais, elles pleurent, tout le monde pleure, visiblement.
ולבות לא יוסף לא חוצה חסידית מתרסי צינור ותוכנית כל המיטות. לא צירו מפחד לא יום אחד צירוף יומו. מגדר באופן יעלות מכתב ישות צהורים. יפול מציץ כל אלף ובובו לבין ירקו אלה כל לא ידוש. רק בעיניך סבית ושירי מסות שלי מתראה, יעתו עד נראה מעצים, עליון צמתו בנעמיך. לא שמוני אליך ובאו ונגן למכך ואולך. ובלחוב יצא בדרך לשמור לך בכל דרוכך. על כפיים מסירות חום בין תיזור ובין רגליכם. הצחק מופסת בין רוח כמוס כפיר בסנדו. תביא חושב נפלתנו, אסלבנו כי ידחינו. נקרואי בי ועינינו, אם לא נוכי בצורו, אחלתנו ואחלתנו. עורך ימי מזגיינו ואחיו בישוס. שימו נפלת, נסחת נפלת, 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 נפלת,
Bueno, tenía la cabeza a los luchadores. Viviría en un silencio mucho más claro. Admisionales, admisionales a los luchadores. Tengo la acción de que yo te quede la raza a mí. Admisionales a mi corona, es una de las cosas. Admisionales que te acabo de entrar en la vida de padre. Tengo la palabra de la gente, la
On nous passe à faire le même petit mari. C'est vite à venir qui fait la fille de vous par une femme. La fille a donné une chambre, ma mère, qui a changé la route. Et après l'histoire de la mère qui m'a donné une femme, mais en vain, moi, ce que tu veux, c'est que tu as une femme.
J'ai
une petite
question par rapport à ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de gens qui témoignent sur la façon dont les peuples.
Comment vous parlez?
Il y a beaucoup de gens qui théorisent sur la manière dont les peuples sont influencés, comment ils sont peut-être gouvernés par des bouleversements historiques. Et il y a des théories qui montrent qu'ils ne peuvent pas vraiment se soustraire. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à résister à une situation? Par exemple, une dépression. Dépression collective. Donc, une dépression collective. Qu'est-ce qui fait que les hommes arrivent à résister?
Vraisemblablement, c'est un enseignement reçu dans leur jeunesse. Ils ont reçu un enseignement qui les renforce suffisamment pour pouvoir. Et aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre, savoir de connaître des réponses aux arguments qui sont donnés, qui tiennent en général par la route.